BW. Vue d'Allemagne.
Willkommen, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Vue d'Allemagne. Vue d'Allemagne qui vous emmène à Berlin cette semaine. Alors pour ne rien vous cacher, on s'est posé la question, est-ce qu'on vous emmène plutôt à la chancellerie ou au parc ? La chancellerie pour parler politique, Angela Merkel vient d'annoncer qu'elle ne se représenterait pas à la tête de son parti, la CDU, et qu'elle ne briguerait pas de nouveau mandat à la tête du gouvernement à la fin de celui en cours. Une annonce un peu surprenante mais officielle après le nouveau revers électoral lors du scrutin régional en Hesse dont on vous parle sur l'antenne depuis dimanche dernier. Ça fait donc évidemment la une de l'actu en Allemagne, une petite révolution alors qu'Angela Merkel est au pouvoir depuis 13 ans. Mais, on vous en a déjà beaucoup parlé, on a parlé politique longuement il y a 15 jours dans cette émission aussi. Alors on vous emmène bien à Berlin, mais on va au parc plutôt, on va parler démocratie citoyenne, logement, des sujets qui sont aussi au cœur de l'actualité et des préoccupations de chacun ici. Et puis dans la seconde partie de cette émission, direction Istanbul, où l'on vient d'inaugurer ce qui se veut le plus grand aéroport du monde. Des années de travaux, des milliards dépensés, des ouvriers décédés aussi sur le chantier. On sera sur place dans quelques minutes. Mais d'abord donc, direction Berlin, sur les pistes d'un autre aéroport d'où on ne décolle plus depuis bien longtemps, mais où on se rend à pied, en vélo, en famille, en couple ou entre amis pour profiter de l'air frais ou d'une bière fraîche.
Das Tempelhofer Feld.
Tempelhof est un nouveau lieu pour les Berlinois, accessible seulement depuis 2010. Depuis, il est de plus en plus populaire. Les jours de beau temps, sans autre grand événement, jusqu'à 70 000 personnes viennent ici. Ce n'est possible à aucun autre endroit à Berlin.
Celle que vous entendez est Martina Witt, une Berlinoise qui nous présente Tempelhof. Tempelhof, c'est 380 hectares de l'herbe, mais aussi et surtout d'anciennes pistes d'aéroports. Tempelhof était un des aéroports de Berlin jusqu'à sa fermeture en 2008. C'est celui que vous aviez peut-être déjà vu dans des livres d'histoire ou dont on a déjà parlé aussi dans cette émission. Il servait au ravitaillement de Berlin lors du blocus de la ville entre 1948 et 1949. Et depuis 2010, il est donc lieu de détente pour les habitants et des touristes. Un parc géant sur lequel certains ont déjà pensé construire des bureaux, des magasins, mais aussi et surtout des logements. Il y a de la place pour ça. Mais les habitants se sont opposés au projet par référendum en 2014. Sauf que depuis peu, le sujet est remis sur la table malgré ce référendum. 60 000 personnes aménagent à Berlin chaque année. On manque de place un peu beaucoup. Les loyers explosent, les manifestations pour des prix décents aussi. C'est le cas à Berlin, mais dans beaucoup de grandes villes en Allemagne. Gouvernement, région, mairie, tout le monde donc travaille sur le sujet en ce moment. Et récemment, le bourgmestre gouverneur de Berlin, ancien responsable de l'aménagement urbain, est revenu ainsi sur les constructions à Tempelhof. Michael Müller n'y ferme plus la porte.
Je vois partout des discussions à ce sujet. La pression augmente, il faut toujours réagir aujourd'hui avec d'autres concepts politiques. L'erreur que nous avons commise à l'époque, l'erreur que j'ai commise en tant que sénateur du développement urbain, c'est d'en vouloir trop.
Voilà, autrement dit, on ne peut pas avoir de jolis parcs sur des hectares et des logements pas chers. C'est aussi ce que dit le député de CDU de Berlin, Burkhard Dräger.
C'est une situation nouvelle et elle devrait être présentée à la population. Peut-être que les gens voient les choses différemment aujourd'hui. Je le vois aussi dans mes heures de consultation des citoyens, lors de mes événements locaux. La pénurie de logements est la question sociale de la ville. Elle est sur toutes les lèvres.
Sauf que le référendum de 2014 fait office de référence légalement aujourd'hui. Les gens ont dit non aux constructions à l'époque et cela pose une vraie question de démocratie. Faut-il revenir sur une décision comme celle-ci, récente en plus ? Certains tentent de proposer des compromis, on construit un peu, mais on laisse aussi une grosse partie du parc, il y a de la place finalement. Oui, mais non, répondent Martina Witt et Gernot Ziska, qui militent depuis des années contre les constructions.
La seule loi qui existe à Berlin et qui a été écrite par les Berlinois est la loi sur Tempelhof. Si on s'assoit dessus, il ne faudra pas se poser de questions sur le désenchantement de la politique.
Si nous commençons à construire ici, ce sera un début seulement. 5 ans plus tard, on dira que nous avons toujours une grande pénurie de logements et nous devrons alors y construire un peu plus. Pareil, dans 10 ans, ce sera un processus insidieux où le développement progressera. J'en suis fermement convaincu.
Un débat qui reste ouvert, donc symbole de la crise du logement, on peut le dire ainsi, hein, en Allemagne. Même Google a dû plier face à la contestation cette semaine après 2 ans de lutte. Le géant de l'Internet voulait s'installer dans un vieux bâtiment industriel au cœur de la capitale allemande. Sauf qu'Association contre la spéculation immobilière et la hausse des loyers se sont battus des mois durant. Et Google a fini par plier out face à la contestation.
Ich würd gern mit dir in einer Altbauwohnung wohnen. 2 Zimmer, Küche, Bad und ein kleiner Balkon. Ich würd gern mit dir in einer Altbauwohnung wohnen. Mit einem kleinen Balkon.
Dritte Stock, 3e étage, One and My Counterite, groupe allemand originaire de Cologne. Le chanteur chante son envie de vivre enfin avec son ami qui est loin. Vivre dans un petit appartement avec 2 chambres, une cuisine, une salle de bain et un petit balcon.
In leisen Telefonaten, worauf genau weiß ich nicht. Vielleicht auf dein Gesicht.
Vue d'Allemagne, 2e partie, on part pour la Turquie cette fois. C'est là, à Istanbul, que le président Recep Tayyip Erdogan a inauguré ce qui devrait devenir le plus grand aéroport du monde lundi. Un projet vivement contesté sur place, symbole des méga projets d'infrastructures qui ont transformé la Turquie depuis son arrivée au pouvoir. Un aéroport et des pistes au bord desquelles nous emmène Solène Perman.
Pistes de décollage et d'atterrissage, 76 km carrés et une tour de contrôle en forme de tulipe, symbole d'Istanbul. Le nouvel aéroport, censé devenir le plus grand au monde selon Recep Tayyip Erdogan, a été inauguré lundi après-midi. Une cérémonie en grande pompe à l'image de ce projet titanesque de plus de 10 milliards d'euros. Dans 10 ans, l'aéroport devrait desservir plus de 300 destinations et accueillir jusqu'à 200 millions de voyageurs par an. C'est 2 fois plus que l'aéroport américain d'Atlanta, le plus fréquenté au monde, et c'est l'un des projets fous d'Erdogan entrepris depuis son arrivée au pouvoir. Jean Marcoux, enseignant-chercheur et spécialiste de la Turquie.
Cet aéroport est un moment important dans cette suite de grands travaux. Ceci dit, cela tient aussi, je dirais, à l'augmentation du trafic sur la Turquie, en particulier au développement de la compagnie nationale, Turkish Airlines, qui a ouvert de très nombreuses lignes aériennes sur tous les continents et qui fait que Istanbul est devenu une sorte de hub aérien, un grand hub aérien dans le monde. De là, effectivement, la nécessité d'un nouvel aéroport.
Mais depuis le début des travaux en 2015, les ONG écologistes dénoncent son impact sur l'environnement. Situé à 35 km au nord du centre-ville d'Istanbul, près de la mer Noire, il a été construit sur ce qui était autrefois une forêt et un sanctuaire naturel pour les oiseaux migrateurs. Ces oiseaux risquent désormais d'être aspirés dans les moteurs des avions au-dessus de cet aéroport, inauguré un lundi 29 octobre, une date symbolique en Turquie.
C'est la date de fondation de la proclamation de la République en Turquie, qui est donc finalement le début de l'existence d'une Turquie contemporaine, d'une République de Turquie. Bien sûr, une date vis-à-vis de laquelle Recep Tayyip Erdogan aurait pu avoir certaines préventions, mais disons que depuis plusieurs années, on voit, et notamment les derniers mois, on voit que Recep Tayyip Erdogan instrumentalise un petit peu tous les ressort du nationalisme turc.
Dortoirs surchargés, nourriture médiocre et retard de salaire. En septembre, des milliers d'ouvriers logés sur place ont contesté leurs conditions de travail et de vie sur le chantier. Les manifestations ont été vivement réprimées par la police. Plus de 400 employés ont été arrêtés. Une trentaine d'entre eux sont toujours derrière les barreaux.
La Turquie est un pays où on bâtit beaucoup, on construit beaucoup ces dernières années, et où finalement les conditions de travail sur les chantiers sont souvent des conditions de travail qui sont assez difficiles et qui ne respectent pas toujours les normes, et en particulier, y compris les normes du pays. Et donc, cette déficience s'est confirmée dans la construction de l'aéroport d'Istanbul et elle a probablement été aggravée justement par la volonté de tenir des délais, en particulier de tenir à tout prix ce délai du 29 octobre.
Une vingtaine de personnes ont perdu la vie sur le chantier depuis le début des travaux en 2015, selon les autorités. Un chiffre qui s'élèverait à plus de 400 selon le journal d'opposition Cumhuriyet. Murat Ocak est ingénieur sécurité sur le chantier.
Nous étions sous pression pour terminer avant l'inauguration. Dans mon entreprise, nous avons toujours été payés pour nos heures supplémentaires en salaire ou en jour de congé. Parfois, en tant qu'ingénieur en sécurité, on nous a demandé d'être tolérants quand on contrôlait le respect des règles. Mais nous avions des lignes rouges à ne pas dépasser. Nous ne pouvions pas fermer les yeux sur les incidents.
Selon lui, le chantier a été mené tambour battant.
Dans des conditions normales, entre 15 000 et 20 000 personnes sont nécessaires pour un projet comme celui-ci. Or, nous avons été jusqu'à 40 000 employés sur le site. C'est parce que nous étions si nombreux que nous avons pu terminer à temps. Je pense que nous aurions pu avoir une année supplémentaire, mais ce n'était pas moi qui prends les décisions. C'est vrai que nous avons terminé un peu tôt.
En réalité, l'inauguration qui a eu lieu lundi était avant tout symbolique. L'aéroport n'assure que 5 destinations par jour pour le moment. Il ne sera pas vraiment opérationnel avant la fin de l'année. En décembre, la première partie seulement ouvrira ses portes, mais le chantier se poursuivra jusqu'en 2028. À terme, le premier aéroport d'Istanbul, l'aéroport Atatürk, sera fermé et transformé en un lieu d'exposition et un jardin public. L'aéroport Sabiha Gökçen, lui, continuera d'accueillir touristes et hommes d'affaires. Solène Perman à Istanbul pour la Deutsche Welle.
Reportage au bord des pistes d'Istanbul ou de celles moins bruyantes de Tempelhof à Berlin, retrouvé dans la médiathèque de la DW. Car on est comme les avions, on doit décoller du studio à l'heure ici. Alors je rends l'antenne pour aujourd'hui, mais restez à l'écoute, hein, d'autres infos arrivent. Un merci aussi avant de se quitter à nos collègues de Deutschlandfunk pour les sons de Berlin. Pourvu d'Allemagne, vous retrouverez Anne Letouzé la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une belle semaine, alles Gute et à très bientôt. Tschüss!